Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles, l'épisode du lundi. Le podcast des maternelles, je vous rappelle que depuis cette rentrée, on a décidé de repasser chaque jour un extrait de l'émission du matin de France 2. L'extrait dit les yeux dans les yeux, l'entretien entre Agathe Le Caron et son invité qui vient raconter soit un problème, soit quelque chose d'extraordinaire qui lui est arrivé, etc. Et derrière, on a un spécialiste qui vient un peu débriefer, donner ses bons conseils. Et on s'est dit, comme il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas suivre l'émission en direct forcément parce que ils ont repris le travail, etc., ils n'ont pas le temps tout simplement, on va le proposer en podcast, comme ça tout le monde peut l'écouter quand il veut, quand il peut, en courant, en faisant à manger, en faisant la sieste, en faisant ce que vous voulez. Et donc voilà, le podcast des maternelles tous les jours. Aujourd'hui, sujet important qui concerne beaucoup de familles, ou du moins un sujet dont enfin on commence à parler. Le sujet de l'hypersensibilité chez les enfants. Vous allez tout d'abord entendre Nathalie, qui est la maman de Tim, qui est donc hypersensible, Tim qui a 7 ans. Et puis ensuite, on va commenter et donner des bons conseils avec la psy Stéphanie Couturier. Mon enfant est hypersensible, c'est parti.
Alors écoutez bien, on estime qu'un Français sur 3 est hypersensible. Peut-être que vous en faites partie. C'est un trait de caractère qui se manifeste dès l'enfance. Bonjour Nathalie.
Bonjour Agathe.
Vous êtes la maman de Tim qui a 7 ans, de Zoé qui a 3 ans. Et dès la naissance, vous avez perçu que votre aîné, Tim, avait une sensibilité à part. C'est-à-dire qu'il avait des réactions déjà même étonnantes pour un tout petit bébé. Donc merci de venir partager avec nous votre histoire, parce que je pense que quel que soit l'âge de nos téléspectateurs, peut-être que votre histoire va résonner en eux. Alors déjà, donc à partir de quand vous avez remarqué qu'il avait une sensibilité à part, Tim? On a dit tout bébé, mais c'est quoi? C'est vraiment tout tout petit?
Alors dès le début, mais c'est vrai que c'était mon premier, donc je n'avais pas forcément d'élément de comparaison. Et du coup, j'ai vu dès le début, effectivement, que c'était
il surréagissait
à tout. Mmh. Alors, je ne savais pas si c'était normal ou pas, parce que je me disais qu'un bébé, c'était forcément sensible, c'était forcément très sensible. Donc, je me rassurais beaucoup avec ça aussi, en me disant, il a son petit système neurologique qui n'est pas encore mûr, c'est sans doute normal. Mais effectivement, il avait des besoins intenses.
Il sursautait aussi, vous nous avez dit en préparant l'émission.
Voilà, il sursautait énormément à tous les bruits. Dès qu'il y avait une odeur, ça avait l'air de l'importuner très, très vite. Quand on lui présentait, alors quand il y a eu la diversification, tout était très fort. C'est-à-dire, soit il allait adorer, soit il pouvait se cabrer en arrière parce que je lui mettais un petit poids sur la langue, par exemple, et qu'il avait l'air de détester. Mais tout était très fort dans ses réactions. Mmh. Très, très fort.
Tout était multiplié par 100 ou divisé par 100, quoi.
Oui, plutôt multiplié par 100. Oui, plutôt.
Comment est-ce que vous réagissiez? Est-ce que ça vous inquiétait?
Alors oui, selon mon état de fatigue et d'anxiété aussi du moment, disons que c'était un peu un cercle vicieux. Si j'étais déjà pas très bien moi-même, ça m'inquiétait beaucoup. Mm-hmm. Et puis, ce qui n'était pas facile, c'était que je me rendais compte que tous les bébés n'étaient pas comme ça. C'est-à-dire que quand j'étais dans ma bulle avec lui, j'arrivais à être à son écoute et à me dire « bon, je fais avec, c'est comme ça, je suis sa maman, c'est le jeu et j'apprends à le connaître et peut-être que c'est normal. » Et puis quand je me retrouvais au milieu d'autres parents ou avec d'autres enfants, je me rendais bien compte que quand même, ils réagissaient plus fort.
C'est ça.
Que parfois, j'avais des réflexions des autres parents qui me disaient « tu trouves ça normal qu'ils réagissent comme ça ?»
Voilà. Ah, l'entourage.
Ça, c'était plus compliqué.
L'entourage bienveillant, pas toujours. Alors du coup, en grandissant, comment est-ce que ça continue à se manifester, cette hypersensibilité?
Alors, il y a eu des choses comme les spasmes du sanglot, par exemple. Mmh. C'est-à-dire qu'à la crèche, un jour, on m'a dit, Tim, quand il s'agit de partir au repas, il fait un spasme du sanglot, il tombe dans les pommes. Il y avait des choses comme ça. Il y avait des crises très, très fortes. C'est-à-dire que c'était un petit garçon qui était très, très calme globalement, qui était capable de se poser pendant des temps incroyables devant un puzzle. Tant qu'il était dans sa bulle, il était très tranquille. Et puis, il avait pu accumuler des tensions la journée. Alors là, c'était d'énormes crises où, effectivement, il coupait sa respiration. Alors, pas de manière volontaire, mais sa respiration se coupait. Il partait comme ça, crispé. Je fais un petit peu le geste parce qu'il se mettait en arrière. Et puis, le cri finissait par sortir. Mais voilà, on sentait que c'était un débordement à ce moment-là.
Alors, face à tout cet ensemble de réactions que vous trouvez souvent disproportionnées, vous décidez de consulter un psychologue?
Oui.
Qu'est-ce qui vous a dit, ce psy?
Alors, la première psychiatre était un petit peu plutôt vieille école, donc elle était plutôt sur le fait de me renvoyer qu'il fallait que je déstresse.
Sur la mère.
Voilà. Après, elle était aussi bienveillante et à l'écoute de ça, mais en tout cas, il y avait quelque chose dans ce qu'elle me renvoyait qui était plus du côté de notre relation. Donc j'ai travaillé dessus, ce qui est intéressant aussi. Et puis, de fil en aiguille, au fur et à mesure que je racontais un petit peu comment était mon enfant, je rencontrais une collègue orthophoniste qui me disait « tu devrais aller voir du côté de, de l'hypersensibilité ou... ». Voilà, j'avais des échos comme ça et j'ai atterri chez une psychologue qui, elle, a vraiment posé ces mots-là.
Alors, donc on vous a dit quoi ? Hypersensibilité, c'est ça le diagnostic ?
Hypersensibilité, oui.
Hypersensibilité. Alors, comment est-ce qu'on vous a dit de gérer cette hypersensibilité au quotidien ? Qu'est-ce qu'on vous a conseillé ? Parce que je pense aux parents qui nous regardent et qui se retrouvent dans votre témoignage. Mmh. Comment on fait ?
Alors moi, on m'a renvoyé des choses très positives. On m'a dit que je faisais ce qu'il fallait. ça m'a fait beaucoup de bien. Dans la mesure où j'étais beaucoup à son écoute et que je mettais en mots ce qu'il vivait. Donc on m'a dit qu'il fallait absolument continuer comme ça, qu'il fallait faire des hypothèses pour lui tant qu'il ne pouvait pas les faire lui-même, poser des mots, être à l'écoute de ce qu'il avait envie de faire en termes d'art, de sport, enfin voilà, qu'il puisse s'exprimer de toutes les manières dont il avait besoin, et continuer aussi à mettre des mots devant lui quand quelqu'un faisait une réflexion négative à son égard. Voilà, de dire...
Et en cas de crise, par exemple, très forte ?
Alors là, par contre, on m'a conseillé de moins parler. Je parlais trop sur l'instant, en fait.
Et vous essayez d'expliquer, de comprendre,
voilà.
C'est ça ?
Et on m'a dit que d'abord, il fallait l'aider à se poser, c'est-à-dire pas trop parler à ce moment-là, l'aider à respirer, à sortir de cet état d'hypertension physique aussi.
Bien sûr.
Pour ensuite mettre des mots un peu en décalé.
Alors, il a 7 ans aujourd'hui, oui. Tim. On dit que c'est l'âge de raison. Comment est-ce que ça se manifeste, cette hypersensibilité, aujourd'hui ?
Alors, quand on lui a dit qu'il était arrivé à l'âge de raison, ça lui a mis la pression. Et du coup, ça a été pire. Donc, on a arrêté de dire ça. La psychologue qu'il suit actuellement nous a rappelé que quand même, la maturité neurologique se faisait petit à petit et que ce n'était pas à 7 ans qu'on était forcément tranquillisés. Donc, que ça allait que vers le mieux, mais que voilà, ça pouvait prendre aussi pas mal de temps. Mais quand même, on constate que les crises sont moins fortes, qu'elles sont moins fréquentes et qu'il arrive de mieux en mieux à dire ou avoir des réactions qui sont socialement plus adaptées. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'à l'école, c'est un enfant qui est exemplaire, il communique, et les crises, il les réserve à la maison et dans les moments de grande fatigue. Et il est aussi capable de les exprimer de manière beaucoup plus acceptable. Il va crier dans sa chambre, il va faire comme s'il allait casser, mais il ne casse pas. Enfin, voilà.
Est-ce que vous remarquez chez lui des intérêts, enfin des centres d'intérêt un petit peu différents de ceux de ses petits camarades de son âge ?
Alors, il va pas aller vers le foot, il va pas aller vers... effectivement, il commence à s'intéresser aux Pokémon et Harry Potter, mais jusque-là, c'était plus décalé que ça.
Ouais. C'est quoi, par exemple ?
Lui, ça va être plutôt des livres de philosophie, de mythologie, ah oui. Des choses comme ça. Et la poterie, il adore la poterie.
Ça, c'est super.
Voilà.
Et il pose des questions un peu existentielles.
Tout le temps, depuis très petit, ouais.
C'est ça, donc en fait, il a une acuité sur le monde que n'ont pas les enfants de son âge, quoi. Ça doit être assez déstabilisant.
Oui, ce qu'il y a, c'est que ça allait de moins en moins, parce qu'il arrive à un âge où de plus en plus d'enfants sont capables de mettre des mots et d'avoir... des discussions plus profondes, mais c'est vrai quand à 3 ans, il nous posait des questions très précises sur la mort ou sur le vide ou sur l'éternité ou sur la liberté, c'était plus déstabilisant. Mmh.
Voilà. Et alors, vous parliez de l'école, donc vous dites c'est une image, oui. Donc il garde les crises pour la maison. Est-ce qu'avec, socialement, est-ce qu'il a des copains ? Est-ce que ça se passe bien ?
Aujourd'hui, oui. C'est-à-dire que plus petit, il avait besoin de longtemps observer, longtemps analyser avant d'y aller. Ce qui n'empêchait pas qu'il ait des bons copains. Hein. Mm-hmm. Mais voilà, il choisissait, il prenait le temps de choisir et il choisissait souvent des enfants aussi très sensibles, capables aussi d'être dans le calme, etc. Aujourd'hui, il est plus populaire, il a des enfants qui sont des copains qui sont plus variés dans leur personnalité. Et oui, ça se passe plutôt bien.
Il n'a jamais été embêté par ses petits camarades ?
Si. Très tôt. Très tôt, il a été embêté. Alors moi, ça m'a sidérée parce que je ne pensais pas que c'était possible. Mais dès la petite section de maternelle, il a été, par exemple, racketté pour son goûter par un plus grand de 4 ans. Très vite, c'est arrivé, ça. Parce qu'en fait, il était tellement empathique qu'il le donnait, son goûter. En disant, mais il a faim, je ne peux pas le laisser comme
donc
ça.
Donc, c'était et puis du harcèlement aussi, un petit peu
Embêté, ouais. Alors, l'année dernière encore. Alors, c'est toujours pareil, hein, les enfants qui font ça, je pense qu'ils ne sont pas dans la logique d'une méchanceté. Mais ils se rendent compte que Tim réagit et il continue. Quoi. Donc, mm-hmm. C'est-à-dire, l'année dernière, on lui bloquait le passage dans le couloir. on lui dit, voilà, on lui demandait de détourner le regard. Deux petites filles qui faisaient ça. Et puis.
Vous, dans ces cas, vous avez été au courant tout de suite? Il vous parlait?
Pas forcément, non. Moi, ce qu'il y a, c'est que je sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Alors, c'est ça qui est
parce
pas évident.
Que vous êtes hypersensible que... vous-même, donc voilà. Forcément, vous, vous avez perçu.
J'ai senti qu'il y avait un truc plus fort que d'habitude. Ouais. Et j'essayais de pas tout. C'est ça qui est difficile, c'est que il y a de la... quand il y a de la fatigue, je me dis que ça accentue les réactions, mais c'est pas forcément que la fatigue. Quoi. Ouais. Et il n'est pas forcément capable de mettre des mots tout de suite dessus. Et en en discutant, il a fini par me dire oui, je suis embêtée par deux petites filles. Qui me bloque le passage dans le couloir, qui m'empêche de passer, etc.
Et là, comment vous avez réagi? Vous êtes allée voir la maîtresse?
J'essaye de rester calme, mais de concrètement dire ça, c'est pas possible. Et oui, j'ai écrit à la maîtresse. Oui.
Si des mamans nous écoutent ou des parents nous écoutent là ce matin, vers quel spécialiste est-ce que vous leur conseillez de se tourner si leur enfant est comme Tim?
Alors nous, dans un premier temps, c'est vrai qu'il y a eu la porte de l'hypersensibilité orale, où on s'est tourné vers une orthophoniste qui a fait un bilan d'hypersensorialité orale, enfin d'hypersensibilité. Et de fil en aiguille, on a été voir une psychologue. Moi, je conseille aux parents d'aller voir quand même des psychologues qui ont cette fibre-là
et
qui sont sensibilisés à ça et formés à ça.
Et on vous a expliqué les causes?
Alors, on m'a dit qu'elles étaient multiples. On m'a expliqué qu'elles étaient multiples. Et que c'est en ça qu'il faut éviter de trop culpabiliser. Elles sont à la fois génétiques, héréditaires, voilà. Il y a la question de l'histoire, bien sûr. Hein. J'ai sans doute pas été une maman très sereine au départ. Mais j'essaie de me dire que c'est pas que ça. Et je pense que c'est pas que ça. Ouais. Je pense qu'on retrouve dans les familles des terrains d'hypersensibilité.
Oui. Alors on va demander de toute façon tout à l'heure à Stéphanie Couturier, qui est psychologue, les causes et effectivement, on lui posera plein de questions sur le caractère héréditaire de l'hypersensibilité. Aujourd'hui, comment va Tim? Alors, globalement, est-ce que vous trouvez
que... Je dirais qu'il va bien.
Ça va mieux.
Quand je lui demande s'il est heureux, il me répond que oui, qu'il est heureux. Et que voilà, il sait qu'il vit plein d'émotions et il dit que... Bon, des fois, il est triste et tout ça, mais ça n'empêche pas d'être heureux.
Là, il fait du yoga, c'est bien, il a trouvé une façon de se canaliser. est-ce que vous vous inquiétez pour lui, parce que l'adolescence approche?
Alors, des fois, je m'inquiète, mais en fait, je me rends compte que je m'inquiète parce que je projette ma propre histoire. Mmh. Et en même temps, je me dis que je lui fais confiance. Et je sais qu'il me parlera si ça ne va pas ou qu'il parlera à quelqu'un d'autre. Il a un grand frère aussi, enfin, il a un demi-frère qui a 17 ans et qui est fabuleux et qui sera là pour lui. Et... Voilà, il a l'art, il a le sport, il est bien entouré et je me dis qu'il y arrivera. Mais oui, des fois, je m'inquiète, oui.
Nathalie, merci pour votre témoignage qui va résonner, à mon avis, vraiment ce matin parce qu'on l'a dit, un Français sur trois est hypersensible. Bonjour Stéphanie Couturier, merci
Bonjour.
D'être avec nous. Je le disais, vous êtes thérapeute, psychomotricienne, sophrologue et vous êtes spécialisée dans l'accompagnement des enfants et des ados. Et sur l'hypersensibilité, vous avez écrit un bouquin qui s'appelle « Mon enfant hérisson ».
Tout à fait.
C'est aux éditions Marabout. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est l'hypersensibilité? Comment ça se manifeste chez les enfants? Parce que, et même chez les grands adultes qui pourraient se reconnaître?
Alors, l'hypersensibilité, déjà, il faut savoir que ce n'est pas un trouble. C'est un trait de tempérament qui fait percevoir la vie avec plus d'intensité. C'est comme si, quand on est hypersensible, c'est comme si on manquait de filtre, parfois, et qu'on percevait, en fait, tout l'environnement beaucoup plus fortement que la moyenne. Ça peut être la lumière, ça peut être les émotions que je vais percevoir chez vous aujourd'hui.
Ce sont des enfants très empathiques.
Ah oui. Oui, alors ça, c'est un trait qu'on retrouve quasiment chez tout le monde, c'est l'empathie qui est très forte.
Mmh. Voilà, des buvards, quoi.
Ouais, c'est oui. Des buvards. Est-ce qu'on peut dire aussi que ce sont plus intelligents que la moyenne? Ou alors vous...
Allez, dites oui, parce que comme je suis hypersensible...
Alors, en intelligence émotionnelle, oui. Ah, ça, c'est sûr et certain.
Ils vont capter les émotions des autres, les sentiments des autres, oui. Les ressentis.
Oui, en fait, c'est vraiment un code qui va être différent. Ce sont des enfants qui réfléchissent ou des personnes qui réfléchissent énormément, qui analysent tout continuellement. Alors, ça peut être sur le plan émotionnel, vraiment par rapport aux autres. Ça peut être aussi juste l'environnement, ce que... J'ai un peu froid, est-ce que c'est la clim? Est-ce que c'est... Il y a un courant d'air quelque part, une porte est ouverte? C'est un questionnement, en fait, qui est constant sur le ressenti.
Ils sont perfectionnistes aussi.
Oui, ouais. Ça fait partie des traits de la personne hypersensible.
Alors, on a reçu beaucoup de questions pour vous, forcément, sur ce sujet. La première envoyée en vidéo par Marie, regardez.
Bonjour, moi c'est Marie, 32 ans, je suis maman de deux petites filles, Emma a 5 ans et Jade qui a 8 mois et demi. Emma est une enfant hypersensible, elle a été vue déjà deux fois par une psychologue, c'est une petite fille qui pose beaucoup de questions, qui n'arrive pas à prendre de décisions toute seule, qui bouge énormément. Et Jade a une hypersensibilité au niveau sensoriel, donc elle est également suivie et aidée par des kinés, par une psychomotricienne pour l'aider. Ma question est donc comment vivre et comment faire face et aider un enfant qui est hypersensible. Voilà, je vous remercie.
Oui, alors là, ce sont des formes qui sont très, très différentes. Quand on a une hypersensibilité qui est sensorielle, il faut vraiment l'accompagner. C'est plus difficile la plupart du temps parce qu'il faut accompagner tout ce qui va se mettre en place. Parfois, ça va être tactile. Donc, les enfants ne vont pas supporter les élastiques des culottes ou la chaussette à enfiler le matin parce que voilà, c'est vraiment...
Elle gratte ou quoi ?
Elle gratte et ce n'est pas juste en l'enfilant. C'est-à-dire qu'après, quand on la porte, on ne peut pas se concentrer sur autre chose. Et on a des difficultés de concentration
L'erreur
à l'école.
L'erreur des parents, c'est de se dire « il est juste chiant à ne pas vouloir mettre sa chaussette. » Et en fait, c'est
pas
ça.
On est sur les services publics, Benjamin, on dit pas ce mot.
Non, c'est un mot grand public. C'est un peu, le risque, c'est un peu ça pour les parents.
Oui, le risque, c'est de se dire que mon enfant est capricieux. Il n'aime pas ses chaussettes, ça suffit. Voilà. Alors qu'il faut trouver une solution pour tout.
Ah, vous
toutes...
dites capricieux.
Ouais. Voilà, prenez-en de la graine.
Il faut trouver en fait des solutions pour toutes ces difficultés. Donc pour la chaussette, mettre du talc sur les pieds. Pour les culottes, trouver des culottes sans couture, sans élastique. Enfin, à chaque fois, il faut trouver. Là, il me semblait qu'il y avait, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai juste entendu ou pas, enfin, autour de la nourriture, est-ce que c'est aussi sensoriel de cet ordre-là ?
De toute façon, la plupart des enfants hypersensibles ont un problème avec les textures, non ?
Alors non. Tous les enfants. Non. D'accord. C'est vraiment une forme d'hypersensibilité. Et donc là, c'est plus compliqué. Il faut trouver des solutions. J'ai une de mes collègues qui est passée par des purées et même la couleur était importante. La couleur dans l'assiette est importante pour son enfant. Elle a fait en sorte que tout soit à peu près de la même consistance, de la même couleur pendant longtemps. Il est grand aujourd'hui, il est au collège. Et elle a adapté ça, mais elle en a fait quelque chose. C'est-à-dire qu'elle l'a... elle lui a donné des cours de cuisine. Donc aujourd'hui, il est capable
elle
de
fait,
faire...
Elle en a fait quelque chose de positif.
Ouais. C'est ce qu'il faut faire, en fait. Il faut vraiment essayer de trouver cette particularité, essayer de comprendre pourquoi et de twister un petit peu ce qui se passe pour trouver une solution.
Mais ce n'est pas évident de faire la différence entre le capricieux et l'hypersensible, en revanche.
Alors, en fait, il n'y a pas de caprice.
Ça, vous l'apprendrez au fur et à mesure que vous ferez la maison des maternelles, Yasmine. Mais là, alors là,
comme nos téléspectateurs,
un horizon de.
Je vais sortir mes pancartes.
Ouais. Pas de caprice.
Non, il n'y a pas de caprice. Ce ne sont que des réactions émotionnelles intenses à un vécu qui est intense. En fait, souvent, la réaction émotionnelle, elle peut paraître démesurée pour l'entourage, mais elle est souvent à la hauteur de ce qui est ressenti. Donc, ça ne va pas être un caprice, ça va être vraiment montrer ce que l'on ressent à l'intérieur de soi.
Alors, Marion nous demande, d'ailleurs, on fait référence à ce que disait Nathalie tout à l'heure, est-ce qu'il y a un caractère héréditaire, finalement, de cette hypersensibilité ? Et est-ce qu'il y a un profil d'enfant ?
Alors, non, pas. Enfin, il y a autant de formes d'hypersensibilité que d'enfants hypersensibles. On va retrouver certains profils par rapport aux réactions émotionnelles. Tout va dépendre si l'enfant est introverti ou un peu extraverti, s'exprime facilement. Alors, ça va être plus facilement repérable quelque part qu'un enfant qui va garder pour lui. Mais sinon, oui, à chaque fois, c'est très, très différent. Il y a des enfants qui ont des problèmes avec l'alimentation et avec les vêtements et d'autres, pas du tout. Ça ne va pas être un sujet. Ce qui ressort, ça est de la forte empathie, le fait de réfléchir énormément, de tout analyser.
C'est des enfants qui sont intéressants, non ?
Oui.
Ils ont un truc en plus, il faut le dire quand même.
Pour moi, c'est une forme de don, en fait.
Ah oui, c'est un don, c'est une qualité.
C'est mon avis.
Oui, il faut le dire, c'est une super qualité et on a des super pouvoirs.
C'est exactement, c'est un super pouvoir. Après, il faut l'apprivoiser pour pouvoir l'utiliser. Voilà, et pour pouvoir l'utiliser comme il faut.
La première question est de vous demander quelle est la différence entre être très sensible et être hypersensible. Et on pourrait même rajouter que c'est vrai que ça peut être un reproche de dire que tu es trop sensible.
Alors, tout va dépendre si on part du fait que ce soit une vraie difficulté ou pas. On peut être normosensible, donc être sensible de façon un peu plus commune, on va dire. Être un petit peu plus sensible, on commence déjà à basculer. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, on parlait d'une personne sur cinq qui était hypersensible. Il y a eu des nouvelles études où on parle d'une personne sur trois maintenant, mais parce que justement, on a basculé sur le très sensible à... C'est devenu une famille de très sensibles, ultra sensibles, hyper sensibles. Voilà. À partir du moment où on a une sensibilité qui est supérieure à la moyenne, on passe dans cette catégorie.
Pour voir le verre à moitié plein, Marine demande quels sont les atouts des enfants hypersensibles.
Ah, mais moi, je ne vois que le verre
mais
à moitié plein.
Parce qu'en tant que parent, ça peut nous angoisser. On peut se dire, mais ça va être dur pour lui, etc. Mais quels sont les atouts ?
Il y a énormément d'atouts pour l'enfant hypersensible, énormément. Sa créativité, sa façon de penser qui peut être employée pour des études, pour ses passions.
On peut dire aussi qu'il va avoir une plus grande conscience du monde qui l'entoure.
Mais complètement.
Quel atout extraordinaire, vu que notre passage sur Terre est quand même assez furtif, de pouvoir en prendre la substantifique moelle, quoi. C'est extraordinaire.
C'est très philosophique ce que vous venez de dire.
Oui, mais moi, je trouve que c'est hyper intéressant, justement, en ce sens-là, les hypersensibles.
Pour moi, les hypersensibles ont une vraie mission avec l'écologie. Parce que ce sont des enfants, des êtres qui sont passionnés là, et qui sont très investis dans ce qu'ils font. Donc l'écologie, mais même le rapport à l'autre, la camaraderie, c'est un don pour moi, clairement. Et puis c'est une richesse intérieure qui est extra.
Comment elle s'appelle cette jeune Suédoise ? Greta Thunberg ?
Oui.
Elle est un peu le symbole des hypersensibles, justement, très investis.
Elle est plus qu'hypersensible, elle est Asperger.
Oui, oui.
Je crois qu'elle a un mix de beaucoup de choses. Et quand Donald Trump était rentré dans l'art, c'était un peu l'exemple opposé. Il manquait peut-être un peu d'empathie.
D'empathie, ça c'est sûr.
Il n'est pas hypersensible, a priori. Non. Vu comme ça. Je suis maman de trois enfants. Mon cadet de 10 ans vient de rentrer en 6e. Il se fait une montagne d'un rien. Est-il hypersensible ? Bon, c'est compliqué pour vous de dire à distance comme ça.
À distance, c'est difficile.
Mais il se fait une montagne d'un rien.
Alors, ça fait partie, en effet, des sujets qui inquiètent, en tout cas des petites choses des sujets d'inquiétude pour les parents et qui font aussi qui les poussent à démarcher et à aller voir quelqu'un en disant je ne sais pas comment faire, je ne sais pas pourquoi, mais il ne réagit pas comme les autres, il ne va pas réagir comme ses frères et sœurs, je ne comprends pas ses réactions. En effet, il se fait tout un monde pour pas grand chose, et ça peut être en effet un indicateur de l'hypersensibilité.
Donc là, le conseil, c'est si elle veut amener voir quelqu'un, elle va voir qui ?
Alors, il y a plein... Moi, je ne suis pas psychologue, je suis psychomotricienne et sophrologue. Et si je me suis vraiment... Alors, depuis très longtemps, je suis orientée sur les émotions. Ça a toujours été mon truc. Pendant mes études, je voulais faire vraiment un mémoire sur les émotions. Donc, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Mais parce que je pense que je sentais bien que c'était... Il y avait quelque chose de trop en moi qui était à la fois très beau et je ne savais pas quoi en faire. Et... il faut trouver des personnes qui vont avoir cette sensibilité. Ça peut être en effet des psychologues, mais on peut aller voir un psy qui passe complètement à côté. Ouais. Donc il faut vraiment se renseigner.
Ça peut être avec le généraliste.
Ça peut être avec un généraliste.
Avec le pédiatre,
qui va être, exactement, qui va être très à l'écoute. Ça peut être des sophrologues, ça peut être des psychomotriciens. Enfin, il faut juste en fait essayer de trouver quelqu'un qui ait ce regard sur les émotions, sur la sensibilité.
Céline demande s'il peut y avoir un lien entre l'hypersensibilité et l'hyperactivité.
Alors, oui, il peut y avoir un lien, comme il peut ne pas y en avoir du tout. Ça va être deux choses différentes. Quand on a beaucoup de sensations, on peut avoir besoin de beaucoup bouger pour évacuer aussi ce que l'on ressent. Donc, ça peut en faire partie, mais c'est vraiment qu'une petite partie... de l'hypersensibilité.
Et il y a un lien entre vos deux sujets, parce que le postpartum, est-ce que les femmes qui ne le sont pas hypersensibles ne deviennent pas un peu plus, d'une certaine manière, après l'accouchement ?
Moi, surtout, ce qui m'interpelle, c'est que je me demande, parce que j'ai l'impression souvent de voir des bébés hypersensibles, entre guillemets, et je me demandais si, à partir de quel âge vous... Parce qu'il y a vraiment des bébés, je vois bien, qui sont différents des autres, et qui ont une sensibilité au monde, même des nouveau-nés.
Exactement. En fait, on peut le voir dès vraiment la naissance, pour certains. Et puis, et où on va voir justement la lumière, la température, qui va réagir très fortement si la maman est stressée. Alors que tous les enfants réagissent, mais il y en a qui vont réagir beaucoup plus que d'autres. Donc, en effet, on peut le voir dès la naissance, mais pas pour tous les enfants hypersensibles. Il y a des enfants hypersensibles qui grandissent.
Des bébés comme quoi, Anna, c'est les yeux grands ouverts, qui ont l'air de tout observer.
Oui, il y en a qui
réagissent
qui,
très
ils
fort
viennent de
au
naître, et, enfin, ou même quelques heures après, ou même quelques jours après, ils scannent le monde dit vraiment différemment de d'autres.
On les appelle les vieilles âmes, mais c'est vrai. Hein, mais c'est bébés dingue. Qui ont un regard hyper intense.
Et qui comprennent tout. On a l'impression qu'on est là, oh, on est presque intimidés. Moi, je suis là,
oh. Oui, les bébés qui sont très sérieux comme ça, qui rigolent jamais, enfin, de temps en temps, parce que là, sinon, il faut s'inquiéter, mais je veux dire, qui sont comme ça.
Et comme s'ils détenaient la sagesse du monde.
Et puis comme s'ils regardaient en disant, ma pauvre fille, quoi.
Et vous voyez, du coup, Anna, les bébés.
Moi, toujours, je vous vois les bébés, bien sûr.
Bah, dis donc. Bah oui.
Oui, non, mais je vous vois les bébés, bien sûr.
Bah oui, respect, quoi.
Et j'ai et beaucoup
il
ne
sait pas si c'est du second degré.
Non, j'ai beaucoup à apprendre d'eux. Je rigole pas quand je dis ça.
Ok. Yasmine ? Non, pas de question. Comment aider un enfant de 2 ans, vous demande Alice, à gérer le trop-plein d'émotions à l'aube de sa période d'opposition ? Alors, c'est vrai qu'en entrant dans la période des 2-4 ans, qui est un moment de bonheur pour tout le monde.
Oui, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses, des jeux, en fait, à faire autour des émotions. Ça peut être déjà de... à la maison, le soir, de venir faire les dessins sur ce qui a été agréable et désagréable. Et on, évidemment, à cet âge-là, si c'est 2 ans, on aide l'enfant, on fait des petits papiers, et puis on va mettre la boîte avec le grand sourire, le soleil, etc. Et puis la boîte où il y a la pluie, le bonhomme qui fait la tête, pour se dire qu'on va sortir un petit peu tout ce qui s'est passé dans la journée et le mettre quelque part, en tout cas, le sortir de
évacuer
soi.
Évacuer les émotions.
Exactement. Après, en fonction de comment est l'enfant, est-ce que l'enfant aime bien bouger ? Est-ce qu'il est plutôt calme ? Il aime les retours au calme ? Ça peut être soit des temps justement de calme, vraiment, où on parle d'émotions, on lit des livres autour des émotions, ou ça peut être des moments où on se donne la main, et même s'il pleut, on passe 5 minutes, quoi qu'il arrive, dans le jardin ou au parc, quand on sort de l'école, à crier en courant dehors, pour évacuer en fait, le trop-plein d'énergie. Il faut s'adapter à l'enfant.
Alors justement, Sabine demande, ma fille de 5 ans est hypersensible, comment l'aider à se brosser les cheveux, les dents, s'habiller, car tout l'insupporte et tout est source de crise et de pleurs, concrètement du coup.
Oui, mais il faut, donc, j'en parlais tout à l'heure, il faut vraiment que chaque sujet ait une solution. Donc se brosser les cheveux, ben, énormément de démêlants après le shampoing. Il faut avoir une brosse particulière. Il faut que l'enfant choisisse de toute façon, mais il y a des brosses aujourd'hui qui tirent très très peu les cheveux. Et puis il faut brosser le moins possible. On démêle en fait avec le démêlant et puis après on laisse sécher, on laisse. Ça va être si les chaussettes grattent et c'est insupportable, on met du talc sur les pieds, sur les chevilles.
J'en parlais. On n'essaie pas de convaincre son enfant, on fait vraiment avec cette sensibilité-là.
De convaincre, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que l'enfant peut prendre sur lui sur le moment, mais après, ça va être très, très dur pour lui. C'est-à-dire qu'il va passer la matinée, voire la journée, avec cet inconfort. Parce que ce n'est pas un inconfort pour embêter le parent, c'est un inconfort pour l'enfant.
Oui,
donc ça, lui, il va l'avoir toute la journée.
Vous utilisez quel démêlant, vous, Yasmine ?
J'ai vraiment
parce que ça ne marche pas.
Si, au contraire. Ça marche très bien.
À partir de quel âge ou de quel stade de l'hypersensibilité est-il important de se faire diagnostiquer, vous demande Céline.
À partir du moment où ça pose une difficulté à l'entourage. D'accord. L'entourage est très, très important pour le développement de l'enfant et pour l'accompagnement de l'hypersensibilité. Et ça, il y a des études scientifiques aujourd'hui qui sont très précises, qui expliquent à quel point l'entourage, donc ça c'est le côté culpabilisant pour les familles, mais est très important. Et donc il faut, à partir du moment où il y a une difficulté, il faut se faire aider, il faut
comme
se faire accompagner.
Comme il y a une part héréditaire, ce que vous disiez tout à l'heure, si les deux parents, mettons, sont hypersensibles ou un enfant hypersensible, on peut imaginer qu'ils vont l'accueillir avec plus de la bienveillance nécessaire.
C'est sûr et certain. Après, il y a des façons très différentes d'être hypersensible. Moi, je suis hypersensible. Et en plus, c'est mon métier, clairement, et j'ai un fils hypersensible, il a 11 ans aujourd'hui, j'ai mis quand même des années pour bien le comprendre, pour l'accompagner au mieux, et pas 5 ou 6 ans. Enfin, ça ne fait pas si longtemps que ça que j'ai l'impression qu'on a passé un cap. Donc,
encore faut-il le savoir qu'on est hypersensible.
Ben c'est pour ça qu'on fait cette émission.
Ouais, quand on, franchement...
ah, c'est pour ça.
Eh oui, Benjamin. Dis... Eh oui, oui. Pourquoi on fait ça ? Ben oui, oui. Hein, il était important de le préciser.
Il y a beaucoup de parents en fait qui lisent pour leur enfant, qui cherchent des solutions pour leur enfant et par ce biais-là se rendent compte qu'ils sont hypersensibles.
Louise demande, l'éducation positive est-elle une bonne méthode pour accompagner un enfant hypersensible ?
Alors, c'est une bonne méthode pour tous les enfants, pas que pour les enfants hypersensibles. Donc oui, c'est une bonne méthode. Après, il ne faut pas oublier qu'une éducation positive ne veut pas dire une éducation où on va faire que parler et puis écouter l'enfant et trouver que des solutions ensemble. Enfin, il faut un cadre, en fait. L'enfant a besoin d'un cadre aussi pour grandir et s'épanouir avec une sécurité émotionnelle.
Est-ce qu'on pourrait parler de l'importance du sport, des activités extrascolaires pour aider ces enfants? Le sport, le théâtre, la musique.
Très important. Il faut que ces enfants s'expriment. Donc, par le biais qui va être le plus sympa pour
eux. Avec d'autres formes d'éducateurs, en fait. C'est ça aussi qui est intéressant, que l'école et les parents.
Oui, alors c'est sûr. Après, il faut faire attention. Il faut toujours choisir, pas que l'activité, mais surtout la personne qui va faire l'activité. Il ne faut pas que ce soit quelqu'un de rigide. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit à l'écoute et très ouvert. Le chant, c'est génial. C'est génial, le théâtre, le chant, c'est génial pour les enfants hypersensibles. Mais il y a des enfants hypersensibles qui ne vont pas oser.
Voilà, merci beaucoup à Stéphanie Couturier pour ses bons conseils, ses bonnes réflexions. Et surtout, merci à Nathalie d'être venue nous voir dans la maison des maternelles. C'est la fin de cet épisode. On se retrouve demain. Mardi pour un nouvel épisode. D'ici là, et ben, comme toujours, hein, si vous pouvez prendre le temps de mettre une petite note sur votre appli de podcast, sur le podcast des maternelles, nous, ça nous aide beaucoup. On est hyper contents. Mon chef est hyper content. Il me dit, c'est bien, Benjamin, il y a plein d'étoiles, etc. Donc, si vous pouvez le faire, c'est cool. Et puis, si vous pouvez pas le faire, bah, c'est cool quand même, tout va bien. Allez, à ciao tout le monde. À demain, j'espère. Salut.